Ce matin, on m'a fait signe que c'était bon, donc je commence le message. Cette semaine, le canton de Genève a mis en place une énième directive pour faire face à la nouvelle vague d'épidémie de Covid-19. Après deux confinements généralisés, toutes nos habitudes de vie bouleversées, des conditions de travail perturbées, on les a complétées par du télétravail en masse, après une campagne de vaccination planétaire, malgré toutes les précautions qu'on a pu prendre, les masques, une troisième vaccination, eh bien, en début de semaine, j'ai appris que notre ami John Glass avait attrapé le Covid. Je l'ai eu, je suis allé le voir hier, et il est mal en point. Vendredi, j'ai appris que c'était Amanda, et donc on les salue, vous les saluez, j'espère, avec moi, et on prie pour vous, les amis, parce qu'on sait que c'est vraiment difficile. Ils ont les symptômes du Covid, fièvre, fatigue. John allait mieux hier soir, mais il a été pas bien vraiment pendant plusieurs jours. Donc, malgré tout ça, je pense qu'on aspire tous à la fin, de ce fléau, de cette épidémie quelque part. Et donc, on est quasiment tous dans l'attente d'une solution définitive, parce qu'on voit que, eh bien, les gouvernements essayent de mettre en place des choses, mais bah, malgré tous nos efforts, mais malgré le troisième vaccin, il a quand même eu. Je ne sais pas pour Amanda, mais John, je sais qu'il a eu le troisième vaccin il y a 3 semaines, je crois. Et malgré ça, il a attrapé le virus. Et ce n'était pas un variant. En fait, on a hâte qu'un libérateur arrive, que quelqu'un décode le secret de ce virus destructeur et trouve une solution qui va éradiquer définitivement l'humanité de ce virus. Et vous voyez, on en est là, on aspire vraiment à ces choses-là, alors que ça ne fait que 2 ans. On a hâte que quelqu'un nous aide à sortir de ce cauchemar quotidien, de ces masques, de ce gel hydroalcoolique, de ne pas avoir le droit de s'embrasser, de se toucher, de retirer nos masques alors qu'il y a de la buée sur nos lunettes. Et là, je sais qu'il y en a dans la salle. En fait, on est dans l'attente d'un Messie quelque part, de quelqu'un qui va nous libérer de cet esclavage. Finalement, on est quasiment comme les premiers disciples, en tout cas les Juifs du premier siècle, qui attendaient la venue d'un libérateur. Ils attendaient la venue d'un Messie qui allait définitivement balayer les Romains de Jérusalem. Mais ni nous, ni les Romains n'aurions envisagé un Messie comme celui que Dieu allait envoyer. Au lieu d'envoyer un chef militaire pour mater fermement les Romains, Dieu a envoyé son fils dans une famille pauvre, sans influence sociale, sans influence politique. Ce messager était porteur d'une bonne nouvelle. Une nouvelle qui allait éradiquer définitivement le péché. Et ce matin, nous allons assister par la bouche de l'apôtre Pierre à la toute première prédication de cette bonne nouvelle et voir le résultat époustouflant qui en découle. Alors, comme le texte est long et que on ne pourra pas regarder chaque verset dans le détail, eh bien, on va se concentrer sur 6 étapes incontournables. Six étapes incontournables d'une présentation fructueuse de l'Évangile. 6 étapes incontournables d'une présentation fructueuse de l'Évangile ou d'une évangélisation durable. Et il y en a qui ont acheté un livre intéressant à ce sujet. Et donc, on va ce matin regarder au travers de cette prédication, ces 6 étapes, et je ne vous les mentionne pas tout de suite, mais elles vont s'afficher au fur et à mesure. La première de ces étapes, qui est incontournable, c'est le labour, c'est le fait de comprendre le contexte. Parce que chaque prédication est orientée en fonction du contexte. À chaque fois que vous observez les rencontres de Jésus, et on est en train de le faire en ce moment, le vendredi soir, on étudie différents textes, on a étudié Jean 3 et on passe à Jean 4 et on voit que Jésus va reprendre certains éléments mais il ne dit jamais la même chose, il s'adapte constamment à son public. Et parce que Jésus, il connaissait parfaitement le cœur des gens à qui il s'adressait. Donc lui, quelque part, il gagnait du temps parce qu'il était prophète, parce qu'il était Dieu, donc il savait exactement ce dont la personne avait besoin, bien pas nous. Nous, on a besoin d'étudier un petit peu le contexte. Et c'est ce qui se passe ici, dans cette première prédication. Elle n'a pas lieu, elle n'est pas posée comme ça. Et on ne peut pas prendre la prédication de l'apôtre Pierre comme argent comptant et dire ben « nous, on va faire exactement la même chose et il va y avoir 3000 âmes qui vont se convertir à la fin du culte. » Vous voyez ? Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais par contre, il y a des étapes qui sont et qui me semblent incontournables et donc c'est ce qu'on va essayer de regarder. Donc je disais, la première de ces étapes, c'est comprendre le contexte. Depuis plusieurs semaines, on parcourt le livre des Actes. Donc pour vous, ça paraît un petit peu clair maintenant. Mais si vous êtes là pour la première fois, alors je vais le raconter brièvement pour qu'on ait vraiment une idée de quand l'apôtre Pierre y prêche, voilà dans quel contexte il le fait. On est le jour de la fête de Pentecôte. C'est une des trois grandes fêtes juives commandées par Dieu aux Israélites. Il y a des dizaines de milliers de juifs, donc pieux, qui sont de différentes nations. Le texte en mentionne 15, et qui sont là à Jérusalem pour célébrer cette fête. Tout à coup, il y a un grand bruit qui survient et qui surprend la foule. Et là, il y a une sorte de souffle violent, un peu comme le blizzard ou la bise ici à Genève. On dirait le sirocco si on était un petit peu plus dans le sud, ou le mistral si on est à Marseille. Si on est en Israël, c'est le simoun. C'est ce gros vent violent, il s'appelle le simoun. En tout cas, c'est comme un bruit comme ça. C'est vraiment fort pour qu'il y ait une multitude de gens qui accourent et qui veulent voir ce qui se passe. Et donc, ces gens curieux viennent là et ils sont pris devant un spectacle époustouflant. Ils voient apparaître des sortes de langues de feu. Alors, j'en ai jamais vu. Et celui qui les décrit n'en a jamais vu non plus, rassurez-vous. C'est des sortes de langues de feu, donc des sortes de petites flammes qui se déposent sur la tête des disciples. Et eux se mettent à parler une langue qu'ils n'ont jamais apprise. Ils parlent dans la langue de toutes les nations qui étaient là. Tous ces juifs qui étaient venus, venaient de plein de pays différents et avaient des dialectes différents. Mais ils n'avaient pas l'habitude parce que quand on célébrait le culte à la Pentecôte et à la Pâque, on le faisait toujours en hébreu. On lisait la Torah en hébreu. Ensuite, on faisait des prières en hébreu. Donc, vous voyez, le langage du culte se faisait en hébreu. Et là, il voit ses disciples qui étaient des Galiléens, donc des gens peu instruits, qui n'avaient probablement jamais appris de langue dans leur vie, parler dans leur dialecte, mais parfait. Aucune faute de syntaxe, rien, le bon accent. Et là, c'est un vrai miracle. Et on voit qu'il y a dans cette foule qui est là, rassemblée, qui observe des réactions totalement différentes. Il y en a qui sont bouleversés émotionnellement, ils sont subjugués par le spectacle, mais ils n'osent pas poser plus de questions. Moi, je les ai appelés les curieux. Ensuite, il y a une autre tranche de personnes qui sont un peu plus perplexes, dubitatifs. Mais eux, ils sont incapables d'interpréter ce qui se passe. Pourtant, c'est sous leurs yeux, mais ils ne savent pas. Moi, je les ai appelés les agnostiques. Ils sont prêts à croire, mais bon, vous voyez. Et puis, il y a une autre tranche qui était probablement majoritaire. Ça, c'était des gens sarcastiques. Des gens qui se moquaient carrément de ces gens qui parlaient dans leur dialecte, donc d'une façon miraculeuse. Et donc, ils vont interpréter ce miracle, qui est quand même extraordinaire, comme le fruit d'un excès d'alcool. Mais si ces gens parlent, c'est parce qu'ils sont ivres. Mais attention, c'était 9h du matin. Même les alcooliques ne boivent pas si tôt. Bon, peut-être qu'il y en a qui le font, mais en tout cas, c'était 9h du matin, ce n'était pas les restes de la veille, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, ils ont détourné, ils dépréciaient un miracle exceptionnel en le faisant passer pour un vulgaire tour de passe-passe pour des gens qui sont ivres. Et donc, moi, je les ai appelés les athées, ou les religieux suffisants. Comme nous l'avons dit la semaine dernière, et comme je l'ai redit, on est le jour de la Pentecôte, 50 jours après la fête de Pâques, et surtout 50 jours après la résurrection de Jésus. Donc vous voyez, c'est tout frais. Jésus vient de ressusciter. Tout Jérusalem est en effervescence. Les centaines de personnes qui ont vu Jésus ressusciter doivent être toutes excitées. et elles ont probablement dû en parler à leur famille, elles ont dû en parler à leurs voisins, à leurs collègues de travail, à la pause café. Enfin, vous voyez, quand il y a un événement comme ça, qu'on l'a vu, le Christ ressuscité, on ne peut pas se taire. Et c'est ce que Pierre va dire au chapitre 4. On ne peut pas ne pas parler de celui qu'on a vu vivant. Et donc, les gens qui ont vu le Christ ressuscité, mes amis, ils devaient en parler. Et c'était du téléphone juif, pas du téléphone arabe ici. C'est assez efficace, à vrai dire. Vous savez, vous avez le droit de rire, mais fortement, parce que je ne vous vois pas sourire, d'accord ? Vous êtes derrière un masque, donc c'est compliqué pour moi. Donc faites du bruit, les amis. Amen ! Voilà, merci. Merci de compatir avec moi. Donc la population juive, même si elle n'a pas vu le Christ ressuscité, elle est au courant que Jésus de Nazareth, c'est comme ça qu'il était appelé, comme ça qu'il a été identifié sur la croix, roi des Juifs, Jésus de Nazareth, eh bien, tout le monde savait qu'il avait été crucifié lors de la Pâque. Pas parce qu'ils étaient déjà là, c'est les mêmes. C'est les mêmes qui étaient là, qui ont probablement même été au pied de la croix, qui ont assisté à son agonie. Ils sont là 50 jours après, parce qu'ils étaient là pour la fête. Pendant les 3 ans que Jésus avait manifesté toutes sortes de miracles, ils ont eu le temps d'entendre des choses sur ce Jésus. Et donc, il y avait cette toile de fond, vous voyez ? On a cette ambiance, hein, c'est comme si on disait, tiens, il y a Zemmour qui vient à Genève. Hein ? Tout le monde est au courant, il y en a même qui ont manifesté. Il n'avait pas encore ouvert la bouche qu'on lui disait « tais-toi ». Tiens, c'est bizarre, ça me donne l'impression de déjà-vu. Et puis, il y avait donc justement ces gens qui voulaient faire taire ses disciples. Eh bien, c'était des religieux quelque part. La plupart des gens qui ont fait de l'obstruction étaient des religieux juifs. On aura l'occasion de le parcourir quand on va lire les autres chapitres dans le livre des Actes, mais bien souvent, ce sont les plus religieux, les plus durs, parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître en Jésus le Messie. Et donc, tac, ils les faisaient emprisonner, ils allaient les dénoncer, ce que l'apôtre Paul a fait, en fait. Mais il n'était pas tout seul, il était aidé. Et il était aidé probablement par les Sadducéens. Les Sadducéens, c'était des hommes riches et influents. Ils occupaient la plupart du temps les postes religieux civils les plus haut placés en Israël. Ils avaient la réputation d'être brutaux dans leur manière d'agir, d'être durs dans leur jugement. Et eux, ils s'opposaient fortement à tout changement politique, social ou théologique. Ce qu'ils voulaient, c'était la paix. Donc s'il y en avait un qui faisait bouger les choses, bouger les lignes, on allait le voir, on le réprimandait. Et quand, pour le cas de Jésus, quand on n'arrive pas à faire taire ce qui est en train de se passer, parce que les gens vivent les miracles, mais comment vous pouvez dire que je n'ai pas été guéri, j'avais pas de jambe, elle a poussé ma jambe. Moi, j'étais aveugle de naissance et maintenant je vois. Je ne peux pas me taire, les amis. Ce n'est pas possible. Eh bien, du coup, tac, c'était l'oppression et ils allaient fortement. Il y a un historien qui dit « Ce sont probablement eux qui furent responsables de l'arrestation et de la mort de Jésus. » Ils le considéraient comme un dangereux révolutionnaire susceptible de provoquer un soulèvement qui entraînerait une intervention musclée de Rome. Et comme ils ne voulaient pas qu'il y ait de choses qui bougent, ils voulaient maintenir tout bien propre. Hein, vous voyez, ça ne vous rappelle pas un pays, tout carré, nickel. Hein, et donc du coup, dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ping, ils intervenaient. Donc probablement responsables. Il y avait un autre groupe religieux qui était aussi, qui allait à l'encontre. C'était les pharisiens, pas les parisiens, mais les pharisiens. D'accord ? Ce n'est pas un pays, la pharisie. Hein, C'était des gens qui étaient admirés par les juifs. C'était aussi des religieux, comme les sadducéens, mais ils n'avaient pas les mêmes croyances. Les sadducéens ne croyaient pas en la résurrection des morts. En fait, ils prenaient la Torah simplement, alors que les pharisiens, eux, prenaient l'ensemble de la Bible. Et donc, ils étaient très respectueux et respecté, du coup, à cause de ça. D'ailleurs, sans les pharisiens, mes amis, on n'aurait pas eu le canon de l'Ancien Testament. C'est eux qui ont réussi à avoir et à former le canon de l'Ancien Testament. Mais pour préserver ce canon, vous savez ce qu'ils faisaient ? Ils rajoutaient une loi autour de la loi. Et là, on se dit « Waouh, il n'y avait pas assez de commandements, on en rajoute pour respecter les commandements de l'intérieur. » Vous voyez ? Et donc ça, c'est ce qu'on a appelé la tradition. Et quand Jésus intervient plusieurs fois dans les évangiles et il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis, c'est par rapport à ces lois qu'ils ont rajoutées. » Et donc du coup, ils respectaient des choses vraiment insignifiantes, mais ils oubliaient les éléments essentiels de la loi. Ils regardaient finalement à la lettre, mais ils ne regardaient pas l'esprit de la loi. Pourquoi Dieu nous a demandé de ne pas voler ? Alors eux, ils regardaient, ou pour le culte, ça c'était terrible, le culte, on n'avait pas le droit de faire certaines choses. Aujourd'hui encore, on voit même dans la culture israélite, le jour du sabbat, on n'a pas le droit de travailler. Alors travailler, c'est un peu large, mais vous allez voir le concept. Quand vous allez en Israël, en fait, les pharisiens avaient défini ces règles. Alors, ce n'était pas à l'époque de Jésus, hein, ça c'est maintenant, je contextualise. En fait, pour ne pas travailler, il ne faut pas toucher de bouton. Donc, pour prendre l'ascenseur, il ne faut pas toucher le bouton, sinon c'est du travail. Donc, quand vous habitez au 10e étage, vous montez dans l'ascenseur, tout est automatique, la porte s'ouvre automatiquement, et il va faire tous les étages, un après l'autre, et il redescend un après l'autre. Quand vous arrivez chez vous, il y a des détecteurs de lumière, il ne faut surtout pas toucher l'interrupteur. C'est un travail. Vous voyez, jusqu'où c'était allé ? Ben, les pharisiens, c'était ça. Ils avaient rajouté plein de choses qui n'étaient pas dans la loi. Et en fait, est-ce que c'était l'intention de Dieu quand il a donné le Shabbat ? Non, c'était pour qu'on concentre notre attention sur lui, qu'on revienne au Dieu créateur. Vous voyez ? Ça, c'était l'intention de Dieu. Quand un pharisien avait une vache qui tombait dans un trou, il allait la relever. Mais si c'était un homme, il ne le touchait pas. Il y avait des incohérences. Vous voyez ? Et Jésus va les mettre en lumière, ces incohérences, en disant, mais vous respectez les trucs à la lettre, mais en fait, vous accomplissez même pas l'essentiel de la loi, le cœur de la loi, l'esprit de la loi. Donc ça, c'était les pharisiens. Eux, ils croyaient en la résurrection des morts. On est dans une période aussi où il y a une forte attente messianique. Et en raison de l'occupation romaine, le peuple juif était vraiment dans l'attente, vraiment. Moïse Rosen, le fondateur de l'association Juifs pour Jésus, fait mention d'un écrit juif qui circulait à cette époque. Je vous le lis. Son contenu révèle à quel point la désillusion des Juifs face au dernier souverain Maccabéen avait été grande, combien ils détestaient le règne d'Hérode et de ses fils, combien ils s'indignaient de la domination romaine et avec quelle ardeur ils attendaient le jour où Dieu renverserait leur oppresseur et établirait son peuple choisi dans une position de suprématie inébranlable. Et donc, on est là, dans cette période, un peu comme nous avec le Covid, quelque part. On en a marre ! On veut qu'il dégage ce Covid. Et là, c'était, on veut que ce soit les Romains qui dégagent. Et on veut que Dieu vienne établir son règne. Ça, c'était leur souhait. Ils étaient dans cette attente-là. Donc ça, c'est le contexte dans lequel Pierre va prêcher l'Évangile pour la première fois à la première église à Jérusalem. Deuxième étape incontournable d'une présentation fructueuse de l'Évangile. Donc la première, c'est comprendre le contexte. La deuxième, c'est le fait de créer des ponts. D'accord ? Et c'est ce que va faire ici l'apôtre Pierre. Dans la foule à laquelle il s'adresse, il y avait une majorité de pèlerins juifs pieux qui étaient venus donc pour la Pentecôte, mais il y avait probablement aussi des pharisiens et des sadducéens. D'accord ? Alors qu'est-ce que fait Pierre ? On va le lire au verset 22. Il s'adresse à tout le peuple. Israélites, écoutez ces paroles. Et il avait eu une super intro avant. Hein. Il y avait eu un spectacle sans lumière. Tout le monde était attentif. Hein, rappelez-vous le bruit, les langues de feu, les miracles. Et waouh ! Alors là, je peux vous dire que c'est une sacrée intro pour un message. J'en fais pas des aussi tonitruants. Parce que je ne suis pas Dieu non plus. D'accord ? Et que je ne suis pas un apôtre. En tout cas, Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme a prouvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Vous voyez l'insistance ici de Pierre. Il va les chercher où ils sont. Et quand on doit prêcher l'Évangile, les amis, c'est à nous de nous adapter aux gens. Ici, il a affaire à un peuple juif pieux qui est venu pour la Pentecôte. D'accord ? Donc ça, c'est son public à lui. Nous, nous n'avons pas le même public. Donc, vous voyez, c'est là où il faut prendre le principe de créer des ponts, mais pas forcément faire la même chose que lui, parce que vous allez voir que c'est très contextuel ce qu'il fait ici. Pierre, il introduit son discours en partant de ce qu'ils savent. D'accord ? Donc il va les chercher où ils sont et il va souligner des faits connus de tout le monde. D'accord ? Donc il part d'une réalité que les gens ont vécue, qu'ils connaissent, qu'ils savent. Voilà, c'est des choses, des certitudes qu'ils ont. Et là, il bâtit une sorte de pont finalement entre Jésus, entre l'Évangile et son public. Il va mettre en avant les réalisations indiscutables de Jésus et tout ce qui a fait finalement sa réputation. Là, il est en train de crédibiliser le message. D'accord ? Il donne du crédit, il crée un pont en allant chercher les éléments essentiels. Vous allez voir que quand on est dans Acte 17, par exemple, où l'apôtre Paul se retrouve devant des Grecs, c'est absolument pas la même chose qu'il fait. Il ne prend pas la Bible. Il va aller chercher des choses qu'il faisait à Athènes. Vous voyez ? Et donc ici, on est vraiment à Jérusalem, au milieu d'un peuple juif. Donc vous voyez, c'est vraiment des principes qu'on essaye de tirer et non pas d'appliquer à la lettre. On ne va pas jouer nos pharisiens. Dans sa formulation, regardez de nouveau ce que dit Pierre ici. Alors je les ai surlignés sur cette slide. Cet homme approuvé de Dieu devant vous, d'accord ? Donc ça veut dire qu'il est en train de les prendre à témoin ici. Vous l'avez approuvé, les amis. C'est vous qui l'avez approuvé. OK. Par les miracles que Dieu a fait par lui au milieu de vous. Donc encore une fois, il les reprend à témoin. Attendez, les amis, je ne suis pas en train d'inventer des choses. C'est au milieu de vous qu'il les a fait, ces miracles. Ensuite, comme vous le savez vous-même, il part d'une certitude. Vous savez ces choses. Bon sang, vous les avez vécues. Vous les connaissez. OK ? Donc il vient ici les chercher là où ils sont. Il part de leur certitude. Et ensuite, il va les amener plus loin. Il va les conduire tout simplement à l'Évangile. C'est un peu comme s'il leur disait, comme moi, il les identifie, en fait, finalement avec lui, comme moi, vous constatez la même chose, les amis. Vous êtes témoin de ces choses, vous êtes témoin des miracles, vous êtes témoin de sa réputation. Il a fait toutes ces choses à la lumière. Il ne s'est pas caché pour les faire. Vous les avez tous vus, d'accord ? Donc là, il met vraiment en lumière ces éléments-là. Et donc, les Juifs qui entendent cette parole, ils peuvent être que d'accord avec l'apôtre Pierre. Donc, vous voyez, il gagne quelque part son public. Il va les chercher. OK, maintenant, on est ensemble. C'est comme si ce matin, je vous disais, OK, vous êtes avec moi, les amis, ou vous dormez sur votre chaise ? Non, vous êtes... Dites-le-moi, hein, ça me rassurera. Oui, vous êtes là, vous êtes avec moi. Et je suis aussi avec vous, les amis, de l'autre côté. Hein. Mais en fait, voilà, il est allé les chercher et ils sont avec lui. Si Pierre ne bâtit pas ce pont, les amis, il y a très peu de chances que que les Juifs qui sont là écoutent et aillent plus loin. Il faut vraiment qu'ils soient là parce qu'il va envoyer de la bombe derrière. Mais de la bombe, vous allez voir. Et c'est ça, la bombe. C'est la troisième étape. C'est incontournable. On est obligé de passer par là, les amis. C'est qu'avant d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, eh ben, il faut exposer la mauvaise nouvelle. Souvent, on a envie de passer dessus. Mais non. Si tu n'annonces pas la mauvaise nouvelle, eh bien, la bonne nouvelle, ça sera vraiment une bonne nouvelle. Ce sera une nouvelle. Mais là, c'est une excellente nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Donc, il faut passer par cette étape indispensable, incontournable. C'est l'annonce de la mauvaise nouvelle. Et regardez le verset 23. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Il ne les accuse pas directement. Ce n'est pas vous qui l'avez crucifié. Je sais très bien que c'est les Romains. Hein, par la main des impies, c'était ça. Mais vous l'avez condamné. Vous avez trafiqué son procès. En fait, il vient pointer ici sur leur péché, sur leur lâcheté quelque part. Contrairement à nous, les Juifs présents à la Pentecôte savaient qu'il y avait un Créateur et qu'un jour, ils devraient lui rendre des comptes. Ils étaient conscients de leur imperfection. Ils savaient qu'ils enfreignaient la loi régulièrement et que leur péché les privait de la sainte présence de Dieu. Ils étaient dépendants d'un médiateur. Aucun d'eux qui était présent ici n'avait accès au Saint des Saints. à l'attente de la rencontre, hein, d'être dans la présence de Dieu. Seul le souverain sacrificateur pouvait pénétrer dans ce lieu et entrer dans la présence de Dieu, et encore, après avoir lui-même fait l'expiation de ses propres péchés. L'Esprit-Saint n'avait pas encore été répandu, par conséquent, les Israélites n'avaient pas l'assurance du salut. Et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils attendaient avec impatience la venue d'un libérateur. Ils attendaient celui qui allait pardonner définitivement leur manquement, leur manque de reconnaissance, leur égoïsme. Ils attendaient celui qui allait mettre fin au rituel et à tous ces sacrifices sanglants. C'était horrible. Ils n'appréciaient pas ces choses-là, les Juifs. Ils étaient obligés de les faire. Pour expier leurs propres péchés, ils étaient obligés de donner et de faire des sacrifices. Ils attendaient celui qui allait graver la loi dans leur cœur pour leur permettre d'obéir à cette loi, mais de manière volontaire, avec joie et non plus par devoir. Et ils attendaient ça. Ils attendaient ça. Et donc Pierre était face à des gens pleinement conscients de leur nature pécheresse et dans l'attente d'un libérateur. Et c'est la raison pour laquelle il n'y va pas par quatre chemins. Bing ! Il y va cash. Et dans le verset 23, et c'est intéressant parce que c'est un verset qui montre un paradoxe ici. On voit d'un côté la souveraineté de Dieu parce que le Messie, il était clairement annoncé et Jésus l'a annoncé lui-même de sa propre bouche qu'il devait mourir et qu'il allait ressusciter. Il devait souffrir, il devait mourir, il allait ressusciter. Il a répété maintes fois à ses apôtres. Et ce n'est pas rentré, jusqu'au moment où ils l'ont vu ressusciter. Mais même dans l'ancienne alliance, c'était prévu. Même avant la fondation du monde, Dieu avait prévu ce plan, les amis. Et là, on ne comprend pas. On dit, mais attends, Dieu, il a prévu ça, et vous êtes responsable. Comment ça marche ? Hein, c'est compliqué, en fait. Comment on peut articuler ça ? Comment on peut articuler, comment fonctionne finalement la providence de Dieu et la souveraineté absolue de Dieu et la responsabilité de l'homme. Vous voyez, c'est une équation, franchement, c'est compliqué. J'aime bien la définition de Grudem. Alors, il a écrit des dizaines de pages, j'ai sélectionné juste quelques lignes. Il dit la chose suivante, « Dieu est la cause de toute chose, mais il agit de telle manière qu'il respecte d'une certaine façon notre capacité à faire des choix volontaires et responsables, choix qui ont des conséquences réelles et éternelles et dont nous sommes tenus pour responsables. L'Écriture ne nous explique pas exactement comment Dieu articule sa direction providentielle avec notre volonté et nos choix responsables. Mais plutôt que de nier l'aspect divin ou l'aspect humain, nous devrions accepter les deux dans un souci de fidélité à l'enseignement de toute l'Écriture. » Vous voyez, il n'essaye pas de résoudre l'équation. Il dit, écoutez, il y a des choses bizarres, parce que Dieu affirme la totale souveraineté sur l'histoire, sur la rédemption, et en même temps, notre totale responsabilité. Comment ça marche ? Je ne sais pas. On le laisse en tension. D'accord ? Donc, vous voyez, quand on veut des réponses blanc et noir, on ne peut pas toujours les avoir dans la Bible. C'est un des plus grands théologiens du XXIe siècle. Et donc, il laisse cette tension, c'est ce qu'on appelle le compatibilisme, hein, pour ceux qui voudraient faire un peu de théologie. Mais voilà, on laisse cette tension, elle est là, et il faut la maintenir. Si on essaye de résoudre l'équation, c'est là où on va se casser les dents. Et donc ici, Pierre les déclare coupables d'avoir condamné leur Messie. Mais mes amis, pour un juif, ce n'est pas une baffe. C'est pire que ça. C'est comme si on les châtiait mais pour l'éternité en enfer. Parce que commettre un meurtre, à la limite, on faisait un échange. Ok, œil pour œil, dent pour dent, tu as tué quelqu'un, tu as pris la vie de quelqu'un, on prendra la tienne, c'était la peine de mort. Mais quand c'était pour le Messie, ça va beaucoup plus loin. Tu as tué le Messie de Dieu. C'était la pire accusation qu'on aurait pu faire à un juif. Là, vous l'enfonciez, mais carrément sous terre. Il était inexcusable. Il a tué le Messie de Dieu. Waouh ! Regardez dans l'Ancien Testament avec David. Quand il y en a un qui a tué Saül sous sa propre demande, il l'a fait assassiner. On ne tue pas loin de l'Éternel. C'était loin, le Messie, le Christ, c'est le même terme en hébreu. Eh bien là, ils ont tué le vrai Messie. C'était cataclysmique pour un juif. Il n'y a pas pire, en fait. L'apocalypse arrive. Là, Pierre, il envoie 10 bombes nucléaires. Ce n'est pas une petite grenade qu'il a envoyée, c'est une bombe nucléaire. Un juif, il ne pouvait pas supporter ça. J'ai tué le Messie. Mais s'ils avaient pu se mettre sous terre, s'enfoncer, aller jusqu'en Chine, de l'autre côté de la planète, ils l'auraient fait. Il n'y avait pas pire pour un juif. Et en fait, Pierre voulait les amener là, montrer qu'ils étaient coupables. Mais en fait, ils n'étaient pas plus coupables que lui. Ils étaient au même niveau. Pourquoi ? Parce que, mes amis, un péché, un seul péché, nous rend redevables de toute la loi. Vous savez, la semaine dernière, je ne suis pas fier de ça, mais on a reçu deux petits papiers à la maison du gouvernement français nous rappelant qu'on avait dépassé de 1 km/h la vitesse. 2 amendes en moins de 48 heures. Mais mes amis, que j'ai dépassé de 1 km/h ou de 150 km/h, je suis hors la loi. Vous voyez ? Finalement, devant Dieu, 1 km/h ou 100 km/h, t'es redevable. Et je devrais payer mon amende de 90 euros. Et je ne suis pas fier de ça, les amis. Hein. Mais voilà. Finalement, la prochaine fois, je vais passer à 90 au lieu de 51. Quitte à avoir une amende. Hein. C'est comme ça que raisonnerait un païen. Ben non. Je vais tout faire. Et là, maintenant, chaque fois qu'on passe devant ce radar, on l'a repéré, celui-là. Hein. Anne Masse, vers chez ta maman. Et en fait, c'est ce qu'il veut les amener à ce constat-là. Finalement, on est tous pécheurs. On a tous condamné le Christ. Si on a commis un péché, un manquement, et quand je dis un péché, c'est le fait simplement de ne pas faire confiance à notre Créateur, de ne pas être reconnaissant. Vous voyez, on n'est pas en train de dire de tuer quelqu'un ou de voler. En fait, tu t'es mis en colère. Jésus dit que si on se met en colère, on a déjà commis un meurtre, dans l'intention. Mais mes amis, des meurtres, j'en ai connu des centaines dans ma vie, si c'est ça. Et vous voyez, Jésus va au-delà de la pratique, il va même dans la pensée. Si tu as convoité une personne, si tu as convoité simplement la voiture de ton prochain, la belle robe de ta voisine, ou une femme, si tu es un homme, tu as déjà commis adultère, tu as déjà commis un vol. Vous voyez, ça va beaucoup plus loin, et ça, c'est l'intention de la loi. Elle veut laisser passer personne, tout le monde y passe. Et dans cette salle, il n'y a pas une seule personne qui ne mérite pas d'être condamnée. On est tous condamnés parce qu'on a tous participé à la crucifixion de Jésus. Ce n'est pas seulement les Juifs, c'est nous-mêmes. Donc vous imaginez, les Juifs, ils sont liquéfiés, décomposés. On ne sait pas comment ils sont en fait. Ils n'existent plus, ils sont sous terre. Mais ne les laisse pas là. Et c'est là, c'est à partir du moment où on a compris qu'on était perdu, les amis, qu'on peut annoncer la bonne nouvelle. Donc ça ne s'arrête pas là, il y a de l'espérance. Et c'est la quatrième étape incontournable d'une présentation fructueuse de l'Évangile, c'est qu'on va exposer la bonne nouvelle. Et là, les amis, je vous ai enfoncé, enterré volontairement, parce que je veux faire ce que Pierre a fait. Et là, il va montrer la bonne nouvelle, mais vous allez voir, c'est explosif. La mort de Jésus, c'est un verset, la résurrection, c'en est 9 dans le texte. Vous voyez, c'est plus important, la bonne nouvelle. Et c'est ce qu'ils n'avaient pas compris. Jésus, il est venu, vous l'avez tué, alors qu'il était porteur de cette bonne nouvelle. Il avait le vaccin, les amis, contre le péché. Vous l'avez tué, le vaccin, vous avez écrabouillé, alors que vous aviez la solution. Et quand on réalise ça, les amis, si vous découvrez le vaccin contre le Covid, là, et que vous le prenez, que vous l'écrabouillez, mais vous devez vous en vouloir, parce qu'il y a des milliers de gens qui vont mourir à cause de vous, voyez ? Et donc, ils sont dans cette situation-là, ces Juifs. Et donc là, il va leur redonner de l'espoir. Et c'est ce qu'on lit au verset 24. Et c'est ce que j'ai appelé la semence. D'accord ? Donc, le labour, c'est le départ. On va comprendre le contexte, on va créer des ponts, ça c'est labouré. Ensuite, on va exposer la mauvaise nouvelle, et maintenant on expose la bonne nouvelle, et ça c'est la semence. Donc labourer, semer, vous allez voir la suite. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur se réjouit et ma langue est dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de bonheur par ta présence. » Vous voyez ici, on est dans un contexte juif avec des juifs qui connaissaient la Torah et donc qui connaissaient David. Et qu'est-ce que va faire ici l'apôtre Pierre ? Il va une fois de plus citer la Bible. Il va aller les chercher sur un terrain qu'ils connaissent. Ils connaissaient parfaitement David et ils connaissaient les promesses qui ont été faites à David dans 2 Samuel 7. Il savait qu'il avait reçu la promesse qu'il allait avoir une postérité qui serait éternelle. Ça ne pouvait pas être David, ce n'est pas possible. D'ailleurs, là, il cite le psaume 16 et il va interpréter le psaume 16 avec un autre psaume et nous donner la conclusion. Je tire juste donc quelques éléments, on n'a pas le temps de rentrer, bien évidemment, dans tous les détails ce matin. En tout cas, pour confirmer que la résurrection, et c'est le texte qui parle ici d'une résurrection, pour confirmer que la résurrection, elle s'inscrivait dans le plan de Dieu depuis l'Ancien Testament pour le Messie, Pierre cite un texte prophétique qui parle de la résurrection. Ce n'est pas suffisamment clair pour nous, et c'est là où on a besoin de l'interprétation de Pierre. Parce que quand on lit le texte, on a vraiment l'impression que c'est David qui parle pour lui-même. Vous voyez ? Et en fait, non, ça va beaucoup plus loin que simplement David. Alors bien sûr, après, on pourrait interpréter... quand Dieu est à notre droite, on pourrait interpréter différemment, vous voyez. Mais ici, il nous donne la réponse un petit peu plus loin. C'est pour ça que là, je vous donne directement la réponse, mais il faudrait lire l'ensemble. C'est un peu compliqué quand on a beaucoup de textes. En tout cas, dans ce psaume, bien que ce soit David qui ait rédigé ce texte, ce psaume est un discours prophétique du Messie. Et il est à la première personne. Souvent, il y a un double accomplissement dans les récits prophétiques, dans les psaumes. On le trouve aussi au psaume 22. D'accord ? Donc, il y a une application directe et une application plus lointaine pour le prophète, pour le Messie. Ici, il va décrire la confiance en Dieu avec laquelle le Messie contemple la croix. En citant ce psaume, Pierre cherche à démontrer que la résurrection du Messie, elle est enracinée dans l'Ancien Testament, qu'elle était planifiée de longue date et qu'elle est probablement le point culminant de la rédemption. En fait, la résurrection, elle prouve la divinité de Jésus-Christ et elle établit son caractère messianique. Elle est la preuve suprême que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus. En fait, Jésus aurait pu rester dans le tombeau. Mais il est venu, il a expié la faute et Dieu a regardé le sacrifice de son Fils, il a éprouvé le sacrifice de son Fils et il a donné son approbation en le faisant revivre. Et il n'y en a qu'un dans l'histoire qui a réussi à faire ça. C'est Jésus. C'est Jésus. Il l'avait annoncé, il l'avait promis, il l'a réalisé. Si Jésus n'était pas ressuscité, mes amis, mais à sa mort, ça serait simplement la mort héroïque d'un martyr, après tout. Ça aurait été, ou bien, la mort pathétique d'un fou qui s'est pris pour Dieu, vous voyez ? Ouais, il a annoncé sa résurrection, mais on sait bien où il est aujourd'hui. D'accord ? C'est ce qu'il va faire juste après, avec David. Mais David, vous l'adulez là ? Mais il y a encore son tombeau, les amis. C'est pas de lui dont on parle. Hein ? Et ça va être là, juste après, regardez le verset 29. Frères ! Il les interpelle de nouveau. Qu'il me soit permis de vous dire franchement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ. Il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ qui, en effet, n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. Ah, excusez-moi, j'ai oublié d'avancer. Verset 32, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, vous voyez, c'est un peu c'est mince. Il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié, leur met une couche. Pierre, au travers de ces quelques citations encore de l'Ancien Testament et de cette interprétation, nous montre finalement le point crucial de son argumentation. Vous avez vu qu'il commence, il s'adresse à eux en tant que frères. Il leur rappelle que le roi David, qui est aussi son roi, eh bien, il est mort. Et que sa tombe, elle est encore là pour le prouver qu'il était mort. Ça, c'est la preuve tangible que David n'a pas accompli ce qu'il annonçait dans le psaume 16. Donc, le texte qu'il vient de citer juste auparavant, en fait, il donne une interprétation dans ces quelques versets. David, il parlait comme un prophète, mais il ne parlait pas de lui-même. Il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, 2 Samuel 7, versets 11 à 16. Et là, j'aime cette conclusion, parce qu'il faut aller rapidement maintenant. J'aime cette conclusion d'un théologien qui dit « L'argument que Pierre tire du psaume 16 peut se résumer ainsi. Le psaume traite d'une résurrection. Comme David n'est pas ressuscité, il ne peut s'agir de sa résurrection à lui. Dans ce psaume, David parlait donc du Messie. Par conséquent, le Messie devait ressusciter des morts. Et là, on assiste à une démonstration magistrale pour un juif. Peut-être que ça vous fait bizarre, tous ces textes, mais les juifs baignaient là-dedans. Baignaient là-dedans. Ils savaient que c'était des textes messianiques, mais ils ne savaient pas comment, finalement, on pouvait les appliquer. Et alors là, Pierre, il dit, mais regardez, c'est ce Jésus-là. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Mes amis, la preuve, elle est concluante ici. Jésus est bien le Messie. C'est QFD. C'est ce qu'il fallait démontrer. C'est tout. Il arrive à cette conclusion et c'est ce qu'il voulait amener ces Juifs à cette compréhension. Donc, c'est un cours d'apologétique qu'on a ici. D'accord ? Mais pour des Juifs. Nous, on n'irait pas forcément utiliser ces textes de l'Ancien Testament, parce que les gens sont à des kilomètres, des années-lumière de cette compréhension du Messie. En tout cas, vous avez vu, juste à la fin, ce qu'il dit. Il démontre que Jésus est le Messie, et il dit, et c'est lui que vous avez crucifié. Vous avez crucifié le vrai Messie. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Regardez la suite. Le Saint-Esprit a fait une œuvre extraordinaire. Il est venu convaincre ces Juifs de péché. Pas tous, mais une bonne quantité quand même ce jour-là. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ?» Vous voyez, le Saint-Esprit a travaillé en profondeur tout au long du discours, mais il était à l'œuvre depuis bien longtemps. Le texte dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Là, on a une expression, c'est un seul mot grec. Le mot « katanousso », vivement touché. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie percer, poignarder. Et ils ont eu le cœur poignardé. C'est pour ça, quand je vous dis qu'ils étaient sous terre, c'est « Waouh !» Ils sont morts, quoi. « Non, pas nous !» Vous voyez, c'était horrible. Mais en fait, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il les a mais pleinement convaincus. Et comment on sait qu'il les a pleinement convaincus? Que ce n'est pas simplement une émotion. Parce que vous avez déjà vu des gens pleurer à la fin d'un culte ou en plein milieu d'un culte. Moi, j'en ai déjà vu. Ils se mettent à pleurer en gros sanglots. Mais c'est juste émotionnel. Ça leur rappelle peut-être un souvenir. Et puis, en fait, il n'y a rien qui se passe derrière. Leur vie est toujours la même. Rien ne change. Ça, ce n'est pas de la repentance. Ce n'est pas une vraie conversion. C'est simplement une réaction émotionnelle à quelque chose de fort. Mais là, on voit qu'il y a une vraie repentance. À quoi ? Regardez la chronologie. Ils eurent le cœur vivement touché. Première étape, conviction. D'accord ? Deuxième étape, que ferons-nous ? Quelqu'un qui se convertit, les amis, qui a une vraie repentance, il va changer de vie. Il va changer de vie. Il a envie de changer, en fait. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? On a fait ce qu'il y avait de pire. Le ciel va nous tomber sur la tête. Alors, ce n'était pas des Gaulois, hein. Mais le Messie va nous faire tomber sa colère sur nous. Qu'est-ce que je peux faire ? C'était ça, le cri du cœur. Le cri du cœur. Qu'est-ce qu'on doit faire, s'il te plaît ? Mais ça me rappelle ma conversion. J'ai vu, en fait, des gens qui vivaient leur foi. Ils n'avaient pas d'argent, mais ils avaient une espérance extraordinaire. Moi, après plusieurs week-ends dans leur présence, je dis, mais qu'est-ce que je dois faire pour être comme vous ? Vous voyez ? On aspire à changer. On veut changer. Et ça, c'est la conversion, ou en tout cas le début de la conversion. Parce que le Saint-Esprit vient, il fait une œuvre. Et du coup, on est, je veux changer. Peut-être que vous êtes là ce matin. Peut-être que ce message vous a pris, vous n'êtes pas juif, mais peut-être que vous réalisez que vous-même, vous avez crucifié Jésus. Vous avez besoin de cette bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Il est mort, mais il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il a pris le péché sur lui et Dieu a agréé son sacrifice. Et c'est pour ça qu'il est ressuscité et il nous a montré ici qu'on pouvait le rejoindre. C'est une espérance extraordinaire. Extraordinaire. Vous pouvez faire comme ces Juifs, être transpercé, poignardé par ce message ce matin. C'est mon désir. Dommage qu'on ne soit pas 3000. Parce que le résultat, regardez ça, c'est hallucinant. Et c'est la sixième étape, intégrer activement dans l'Église. C'est l'étape de la récolte. Pierre lui dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse, détournez-vous de ces gens qui vous disent que Jésus n'est pas le Messie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 hommes. Environ. 3000 personnes. Waouh! Et là, on se dit, oh, qu'est-ce que j'aspire à ces moments-là en tant que pasteur ? Première prédication, 3000 personnes qui se tournent vers Dieu, mais c'est génial ! Mais c'est arrivé qu'à Pierre. Même Jésus ne l'a pas vécu. Même Jésus ne l'a pas vécu. C'est donc exceptionnel. Je relève ici juste quelques éléments. Déjà, qu'est-ce que Pierre leur demande ? Est-ce qu'il leur demande de revivre le feu d'artifice qu'ils ont vécu juste avant ? Allons-y, parlons en langue, les amis. C'est très étrange. Ici, leur demande de recevoir le Saint-Esprit, à aucun moment, on fait mention du parler en langue. 3000 personnes, ça ne vous paraît pas étrange ? Non. Ce qu'il voulait, quand il avait fait cette annonce, cet effet d'annonce, ce feu d'artifice, c'était la croix. C'était Jésus le centre. Ce n'était pas le feu d'artifice qui était le centre. Et donc, la première étape, elle nous est donnée au verset 39. Repentez-vous. 38, repentez-vous et que chacun soit baptisé. Vous voyez, il y a une chronologie. Le baptême vient après la compréhension de l'Évangile, après une transformation du cœur. On ne se fait pas baptiser pour se faire baptiser. On s'en fiche de mettre quelqu'un dans l'eau, c'est symbolique, ça ne changera pas votre vie. Si par contre, vous vous êtes vraiment repenti, que vous avez saisi ce message ce matin, les amis, que vous avez envie de pleurer, de changer, venez nous voir. Et peut-être qu'on va discuter, approfondir ce message, parce qu'on n'a pas tout dit ici. Mais pour les Juifs, c'était suffisant. Et bon, honnêtement, c'est une prédication de Pierre, elle a duré probablement peut-être 30 minutes, 40 minutes, une heure, et là on a une synthèse de Luc. Donc vous voyez, tout n'est pas écrit dans le détail, mais on a les éléments essentiels, c'est ce que le Saint-Esprit avait bien voulu nous laisser. Donc repentance, changement profond, de mentalité, changement profond de notre volonté, ça vient toucher l'aspect volitif de notre être. C'est-à-dire qu'on veut changer. Vous voyez, et c'est ça une vraie repentance. Ce n'est pas simplement un regret. Oui, il y a du regret, mais c'est un regret qui nous pousse à changer. C'est positif, ça nous fait avancer, ça nous fait changer dans le bon, dans la bonne direction. Et donc, vous voyez, vous dites, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le titre « Intégrer activement dans l'Église » ? Eh bien, les amis, si vous prêchez l'Évangile, à un moment donné, vous allez aboutir à l'Église. On peut se convertir en dehors de l'Église, mais si on a bien compris le message, on va aboutir à l'Église. L'Évangile, finalement, totalement proclamé, on va arriver au peuple de Dieu, parce que Dieu, si on prêche l'Évangile, il est venu racheter son peuple parmi toutes les nations. C'est ça l'Évangile. Il est venu en personne mourir pour nous, payer la dette de notre péché et nous offrir une place avec lui, mais à tout le monde, pas simplement une personne. Et regardez ce qui me fait arriver à cette conclusion. Pardon, je ne l'ai pas là, je l'ai sous mes yeux, verset 47. Acte 2, 47, regardez, il louait Dieu et obtenait la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc vous voyez, à partir du moment où on a saisi l'Évangile, en fait, on appartient à l'Église directement. Et donc Dieu nous demande de ratifier ça par le baptême. Le baptême, c'est une identification dans le nouveau corps que tu viens d'intégrer. Tu ne l'as pas vu, mais c'est réel. Tu te convertis, et donc du coup, la logique, c'est que l'Église t'accueille. Et le baptême, c'est le rite de passage pour rentrer dans l'Église. Et c'est pour ça qu'on le fait. Alors vous, on vous laisse du temps. On n'est pas comme les Juifs. Eux, ils se sont fait baptiser le jour même. Alors on se dit, ouais, 3000, comment ils ont fait ? Ce n'est pas notre problème. En fait, on doit accueillir ces gens-là. Et peut-être qu'il y a des gens de toutes les nations parmi nous. Peut-être qu'on va avoir un troupeau énorme de gens qui viennent d'une nation. Eh bien, notre rôle, ce sera comme les apôtres, ce sera de les accueillir, de les intégrer à la communauté et de vivre avec eux ce qui va... Là, je fais un petit teaser pour la semaine prochaine. Non, c'est les baptêmes. Pour le message qui vient. Mais je me suis réservé celui-là. C'était la 7e étape. Donc, intégrer activement et ensuite, c'est former des disciples. Former des disciples. Alors là, on se dit, mais moi, qu'est-ce que j'aimerais vivre ça ? N'est-ce pas ? Je conclue ici. Qu'est-ce que j'aimerais vivre ça ? Mais on n'est pas dans le même contexte. Il y a quelqu'un qui a écrit dans un livre vert que je connais très très bien. Je côtoie tous les jours, en fait, depuis 50 ans. Il écrit « Le réveil spirituel observé dans le livre des Actes est l'aboutissement de ce processus. Dieu avait soigneusement préparé le terrain, notamment au travers de la révélation générale, c'est-à-dire des merveilles de la création qui révèlent sa grandeur et sa toute-puissance depuis l'origine de l'homme. Il avait, depuis 2000 ans, préparé 2000 ans d'histoire rédemptrice qui préparait le cœur des hommes et annonçait la venue d'un Messie. De l'appel invisible mais efficace du Saint-Esprit qui convainc de péché et amène à la repentance les plus endurcies. Des circonstances, péripéties, épreuves que Dieu orchestre souverainement pour amener les hommes à réfléchir et à ressentir leurs besoins spirituels. De songes, de révélations particulières que Dieu envoie de manière souveraine. De l'influence de la parole de Dieu. Écoute, mémorisation et diffusion de la Torah au temple et dans les synagogues, du témoignage frais, simple et authentique des premiers croyants, de la communion fraternelle exercée dans les communautés naissantes, solidarité, actes de miséricorde, bienfaisance, etc., de l'intercession fervente des disciples de Jésus, parce qu'il priait déjà, de la prédication inspirée et zélée des apôtres. Vous voyez, tous ces éléments-là ont contribué au succès de la prédication de l'apôtre Paul. On n'est pas dans ce contexte-là. Et donc, ne nous attendons pas à avoir le même résultat. J'aimerais bien, mais les gens sont beaucoup plus loin que les Juifs. Ils attendent un vaccin, ils n'attendent pas le Messie. Vous voyez ? Donc, à nous de transposer, les amis, à nous de prendre le temps de labourer, vraiment, d'analyser le contexte, d'aller chercher un petit peu le cœur, la température du cœur de nos amis, de nos familles, et de les accompagner, et peut-être de partir justement de ce Créateur. Parce que là, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est merveilleux, la nature. Tout le monde le dit. Ouais. Elle est merveilleuse, la création, n'est-ce pas? Oh ouais, la création, elle est géniale. Alors s'il y a une création, ça veut dire qu'il y a un créateur. Et vous voyez, hop, par petites touches, vous pouvez amener à une compréhension de cette complexité de l'univers. Il y a quelqu'un qui était derrière, forcément. Les amis, je vous sens soit fatigué, soit... Oh. On va demander au Seigneur de nous aider à être ses témoins cette semaine. Vous rappeler, comprendre le contexte, créer des ponts, exposer la mauvaise nouvelle, exposer la bonne nouvelle et prendre le temps de le faire. Ensuite, vous laissez le Saint-Esprit agir. Ce n'est pas notre rôle de convaincre, c'est son rôle à lui. Et il le fait tellement mieux que nous. Et ensuite, une fois que les personnes se tournent vraiment vers Dieu, eh bien nous, on va les accompagner, les intégrer dans l'église locale, mais d'une manière active. D'accord? Et la semaine, dans 15 jours, on verra la suite du livre des Actes, un formidable texte, justement, sur le démarrage de l'église. Qu'est-ce qu'on fait ces 3000? Est-ce qu'on les a laissés comme ça? Ils viennent tous les dimanches, ils s'assiedent. Ben non, c'était le Shabbat, c'était le samedi. Bon, pas de chance. Alors bref.